Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Saint-Esprit, je te prie de prendre toute la place, de prendre le contrôle, Seigneur. Viens parler au travers de ton serviteur que je suis. Viens parler à ton peuple. Viens convaincre, Saint-Esprit, que ton esprit de révélation et de sagesse qui nous révèle Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous remplisse et remplisse ce lieu, remplisse nos pensées, nos cœurs ce matin. Ta parole donne la vie. Ta parole est la vérité. Et tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que la connaissance de la vérité soit notre portion ce matin. Dans le nom de Jésus, je m'attends à toi, Seigneur. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est pour toi. Mais dis-lui avec conviction, dis-lui, Dieu est pour toi. Ce week-end, on a vu ce thème ensemble ici à l'église, que Dieu est pour nous. Dieu est pour toi. On a chanté tout à l'heure, « Je sais que tu es pour moi » dans ce chant. Et c'est important de comprendre que nous devons être convaincus que Dieu est pour nous. Tu dois être convaincu que Dieu est pour toi personnellement. Parce que des fois on chante « Dieu est pour nous », des fois on déclare « Dieu est pour nous », mais on n'est pas réellement convaincu. On le déclare avec la tête, mais on n'est pas réellement convaincu de cette vérité puissante, que Dieu est pour toi. Vous savez, on pense peut-être parfois inconsciemment que Dieu est pour nous, mais il est peut-être un peu en colère ou déçu, ou pas vraiment content de moi par rapport à mes échecs. Ou sinon, on se dit, Dieu est pour moi, mais tu sais, ça fait longtemps que je prie pour telle percée et rien ne se passe. Alors que je regarde tel frère plus jeune, chrétien, qui vient d'arriver, lui, cette percée est là tout de suite. Donc Dieu est pour moi, mais inconsciemment, parfois on garde une pensée qu'il n'est pas totalement pour nous. Ou sinon, on est victime de nos prières non exaucées. Et on pense que, bon, ben, écoute, il est pour moi, mais pourquoi il ne résout pas telle situation ? Il est pour moi, mais pourquoi je vis telle situation ? Et du coup, on manque de conviction dans le fait que Dieu est pour nous. Et on laisse les circonstances nous faire douter de lui. Alors ce chant magnifique qui dit « Je ne laisserai plus rien me faire douter de toi ». Et on laisse parfois des choses nous faire douter de lui. Et on n'est pas convaincu qu'il est réellement et pleinement pour nous. Et à quoi sert-il de demander à Dieu de répondre à nos besoins si on ne croit pas réellement qu'il est pour nous ? On le demande de répondre à nos besoins, mais on n'est pas réellement convaincu. On n'a pas une confiance totale dans le fait qu'il soit pour nous. Alors qu'on a vu que Dieu est pour nous. On lit dans la parole, dans Romains 8, 31, ceci. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Puissant, puissant, mais puissant passage. Où ici l'apôtre Paul dit, mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi ? Paul était fermement convaincu, malgré les circonstances extrêmement difficiles qu'il traversait souvent, que Dieu était pour lui. Et nous avons aussi, nous, aujourd'hui, besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'être extrêmement convaincus que Dieu est pour nous. Et il dit ici, voilà comment il donne l'explication de cette vérité évidente que Dieu est pour nous et qu'on ne devrait pas douter. Il dit, il n'a pas épargné son propre fils. À combien plus forte raison nous donnera-t-il pas toutes ces choses avec lui ? Et qui va réellement nous condamner ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il avait compris que la mort et la résurrection de Christ étaient deux preuves indéniables, irrévocables, irréfutables de l'amour de Dieu à notre égard. Il avait compris que la mort et la résurrection de Christ étaient bien plus réelles et évidentes que toutes les circonstances difficiles qu'il pouvait traverser. C'est pour ça qu'il dit au verset 35, toujours de Romains 8, dans une autre version, « Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ?» L'apôtre Paul était tellement convaincu que la crucifixion et la résurrection sont tellement des preuves établies pour l'éternité. Elles prouvent l'amour de Dieu, c'est un témoignage de Dieu lui-même envers nous qui manifeste l'évidence de son amour. Alors il dit, ni la détresse, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la misère, ni la faim ne peut nous séparer de cet amour qui nous a été manifesté de manière évidente lors de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Car la crucifixion et la résurrection nous montrent que Dieu est réellement pour nous. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une saison de détresse. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une saison où il y a une tempête qui fait rage dans ta vie. Peut-être que c'est ton couple qui ne va pas. Peut-être que ça fait longtemps que tu attends la conversion de ton mari ou de ta femme. Peut-être que c'est tes enfants qui sont partis, loin de Dieu. Peut-être que la rébellion s'est installée, tu ne comprends pas, tu dis « Seigneur, pourtant je les ai élevés dans tes voies. » Peut-être que tu as un problème physique, une maladie, tu ne comprends pas. Et tu pries, c'est toujours là. Et tu doutes réellement du fait que Dieu soit pour toi. Tu ne sais pas réellement, tu dis oui, tu viens à l'église. Mais l'angoisse et la détresse affectent ton âme. Vous savez, parfois on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans nos vies. C'est-à-dire on ne sait pas quoi. Parfois on ne sait pas pourquoi il y a ce quoi. Parfois on ne sait pas quand va venir la délivrance. Et parfois, on ne sait pas comment va venir la délivrance. Mais même si je ne sais pas quoi, même si je ne sais pas pourquoi, même si je ne sais pas quand, même si je ne sais pas comment, mais je sais qui me délivrera. Je sais qui me secourera. Et même si nous ne comprenons pas parfois toutes les saisons de notre vie, nous devons réaliser ceci. Que toute saison difficile a une fin. Amen. Il y a une date de préemption sur toute saison difficile. Et même si on ne comprend qu'en partie, comme dit la parole de Dieu, je peux être convaincu de ceci, que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et de celui qui marche selon son plan parfait. Romains 8, 28. C'est-à-dire que même si je ne comprends pas pourquoi cette période difficile perdure, je sais une chose, que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et de celui qui marche selon son plan parfait. Dieu est capable de se servir du mal qu'il ne voulait pas pour faire le bien qu'il veut. Il est capable de se servir du mal qu'il ne voulait pas pour faire le bien qu'il veut. C'est notre façon de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Donc si Dieu est pour toi, qui sera contre toi ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et vous savez, il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous soyons enracinés, établis, fermement fixés dans ces fondements qu'est la crucifixion et la résurrection. Vous savez, oui, comme nous avons vu que l'apôtre Paul prêchait Christ crucifié, mais il prêchait aussi Christ ressuscité. Et la crucifixion et la résurrection sont comme une lunette 3D. Aujourd'hui, si tu veux voir, ou tu vas au cinéma et que tu veux voir un film en 3D, il te faut une lunette avec un côté rouge et un côté bleu, ou en fonction des lunettes. Parce que si tu ne mets pas tes lunettes, tu vois l'écran comme étant flou, et tu ne vois pas bien ce qui se passe dans la scène. Et j'aimerais te dire ceci. Ce matin, plus que jamais auparavant, mets les lunettes 3D de la résurrection devant tes yeux. Pour que dans les circonstances difficiles que peut-être tu traverses, tu te rends compte qu'avec la lunette de la crucifixion, de la résurrection, il y a quelque chose qui se met en relief dans tes circonstances. Les circonstances qui paraissaient floues et difficiles, voilà qu'en mettant ces lunettes, il y a l'amour de Dieu qui transparaît, qui apparaît au travers de ces circonstances. Mais au départ, tu ne voyais pas. Au départ, tu voyais peut-être l'angoisse. Au départ, tu voyais peut-être la détresse. Mais en réalisant que Christ est crucifié et ressuscité pour toi, tu t'aperçois que malgré tout, il est pour toi. Et tu t'aperçois que l'évidence de sa crucifixion et l'évidence de sa résurrection te fait dire ceci, que Christ a manifesté de manière évidente son amour pour toi. Et que même si les circonstances veulent te faire croire qu'il ne t'aime pas, alors tu deviens convaincu en gardant ses lunettes que si il est pour toi, que si il t'aime, et en mettant ses lunettes, son amour commence à apparaître dans ta vie. Et tu commences à voir les situations de ta vie de manière différente. Et il ne faut jamais, en tant qu'enfant de Dieu, s'éloigner de Christ crucifié, de Christ ressuscité. Donc ce matin, je vais commencer par un premier appel sur le fondement de la crucifixion, le fondement de la croix. Je vais passer assez rapidement là-dessus pour surtout mettre l'emphase sur le fondement de la résurrection. Parce que le but de la crucifixion, c'est de nous amener à vivre une vie de résurrection. Ne reste pas à la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Il est assis à la droite de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 1, 22 nous dit ceci. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Christ crucifié, c'est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés, pour ceux qui croient. Cette puissance consiste en un échange divin. Cette puissance consiste à ce que ce qu'il a fait pour nous à la croix, il veut le produire en nous. La croix n'est pas juste le logo des chrétiens. La croix n'est pas juste un pendentif. C'est bien plus que ça. La croix n'est pas juste un concept. Et d'ailleurs, ce n'est pas deux bouts de bois polis, lustrés, frottés, vernis. C'est pour ça que la parole de Dieu, il est dit qu'il a été crucifié au bois. C'était un bois rugueux. C'était un instrument de torture que les Romains utilisaient pour tuer les malfaiteurs. Mais Dieu a fait de cet instrument de torture un instrument de vie. C'est la sagesse de Dieu. Et lorsqu'on prêche la croix, il y a une puissance qui se dégage. Mais cette puissance qu'il a manifestée pour nous, Il veut qu'elle se produise en nous. Il y a des bénéfices que nous devons recevoir de la crucifixion. Il y a des bénéfices que nous devons recevoir de la résurrection. La croix n'est pas juste un concept théologique ou historique. La croix est une réalité qui doit manifester une puissance en nous et au travers de nous. Il l'a fait pour nous, pour que nous puissions l'expérimenter en nous et le repartager aux autres lorsqu'on le manifeste au travers de nous. Et nous devons réaliser cela. À la croix, Dieu s'est fait faible pour que nous puissions devenir forts. Mais parce que la force de Dieu, la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Il s'est fait faible pour que nous soyons forts. Sa faiblesse nous suffisait. Quand la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Et donc rapidement, on va voir quelques points importants d'échange divin qui s'est produit à la croix. Mais cette croix-là, vous allez voir, doit produire des bénéfices en nous. On a vu que la croix, oui, nous sauve. On a vu qu'à la croix, nous sommes pardonnés. Dans Éphésiens 1, verset 7, il est écrit « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés, nous avons reçu le pardon de nos fautes. » Mais à la croix, on doit comprendre aussi qu'il a pris sur lui la malédiction du péché pour que nous puissions hériter des bénédictions. Galates 3, 13 nous dit « Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. » Il est en effet écrit « Maudit et quiconque est pendu au gibet, au bois. » C'est-à-dire qu'à la croix, il brise la puissance de la malédiction. Et quand les enfants de Dieu s'approprient la puissance de la croix, ils héritent quoi ? La bénédiction. Et il y a plus de puissance dans la bénédiction que la malédiction. Nous devons comprendre cela. Au lieu d'avoir plus peur de la malédiction, avoir plus la foi en la bénédiction. Et de comprendre que la bénédiction, c'est la lumière. Et que la malédiction, c'est les ténèbres. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas de combat entre la lumière et les ténèbres. Lorsqu'il fait noir dans ta chambre et que tu appuies sur l'interrupteur, les ténèbres ne font pas « je vais rester un peu ». Et la lumière fait « non, laisse-moi la place ». Ça ne fait pas ça. Tu appuies sur l'interrupteur et la lumière chasse les ténèbres. Et la bénédiction, c'est la lumière. Et il est devenu malédiction pour que nous puissions devenir bénédiction. Mais cette bénédiction, tu dois te l'approprier par le moyen de la foi. À la croix, il nous a déclarés justes. Romains 5, 9 nous dit donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison sauvés par lui de la colère à venir. À la croix, nous sommes réconciliés. Romains 5, 10, alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. À la croix, il a accepté la honte et l'humiliation pour que nous soyons glorifiés, justifiés. Hébreux 2, 10. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances, celui qui devait leur offrir le chemin du salut. Il a accepté d'être humilié, d'être mis à nu, pour que vous et moi, nous soyons glorifiés, nous puissions participer à sa gloire. C'est l'échange divin. À la croix, il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, les forces des ténèbres. Colossiens 2, 14, 15. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé en le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal, après sa victoire à la croix. Quand Jésus est mort à la croix, il n'a pas dit « tout est fini ». Il a dit « tout est fini ». Tout est fini, c'est un cri de victoire. C'est pas un cri de désespoir. C'est un cri de victoire pour toi et pour moi. Il a triomphé des autorités. ténébreuses dans les lieux célestes. À la croix, il a triomphé de l'influence du monde sur nos vies. Galates 6,14 nous dit, en ce qui me concerne, l'apôtre Paul dit, « Je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour le monde. » Paul, l'apôtre Paul est dangereux. Cet homme a écrit les un tiers du Nouveau Testament. Il a mis le monde sans dessus dessous. Et il dit, s'il fallait me vanter, je me vanterai uniquement de la croix de Jésus-Christ. Pour qui le monde a été crucifié pour moi, comme moi je suis pour le monde. Il savait que le monde a plus de puissance sur lui, parce que la puissance de la croix avait anéanti la puissance du monde. Et s'est approprié cette puissance. À la croix, la puissance de la chair a été anéantie. Galates 2,19 nous dit, « J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie maintenant en tant qu'homme, je la vis dans la foi au Fils du Dieu vivant, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » L'apôtre Paul dit, hey, j'ai compris une chose. À la croix, mon ego, le moi, l'égocentrisme a été crucifié. Ce n'est plus l'ego, le moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon identité n'est plus affectée par un ego centré sur lui-même. Mon identité est épanouie de plus en plus parce que Christ devient mon moi. Et quand Christ vit en moi, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour lui et pour les autres. Et si moi est mort, toi ne peux plus affecter moi. Parce que tu ne peux pas affecter quelqu'un qui est mort. Le moi qui est vivant transporte les offenses, transporte l'amertume, transporte les blessures, transporte tout ce genre de choses. Mais quand le moi meurt, alors tu es délivré de toi. Quand tu es délivré de toi, tu peux vivre vraiment pour lui. Et quand tu es délivré de toi, alors tu es délivré des autres. Si je suis libre de moi, je suis aussi libre de toi. Et ça, c'est l'œuvre de la croix. Parce que peu importe ce que disent les autres, si moi je suis délivré de moi, je ne suis plus en train d'essayer de chercher à plaire aux autres. Mais je cherche à plaire à lui, qui est mort pour moi, afin que je vive pour lui. Ça, c'est ce que produit la croix. C'est pour ça que la croix ne doit pas être juste un concept. Ou quelqu'un qui se dit, oh, bah, tu vois, dans l'église ici, il n'y a même pas une croix. C'est pas important d'avoir une croix physique. Ce qui est important, c'est est-ce que la croix est là. Et est-ce que les bénéfices de la croix libèrent la puissance qu'elle doit libérer? Est-ce que la croix te libère de ton moi? Est-ce que la croix te pousse à t'abandonner plus entre ses mains? Est-ce que la croix te pousse à t'oublier plus toi-même? Est-ce que la croix te libère de ton passé et des offenses et des blessures afin que tu vives pour lui? Ça, c'est la puissance de la croix qui doit opérer en nous. En partant sur la croix et en étant sur la croix, il a versé son sang. Hébreux 9, 12 nous dit, il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a acquis un salut éternel. En allant à la croix, Jésus a été blessé, meurtri. On l'a craché dessus, on l'a fouetté. Il a versé son sang, il a été blessé. Et la Bible dit que c'est par ses meurtrissures, par ses blessures que nous sommes guéris. Isaïe 53, 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensons que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est un échange. Comme il y a quelque temps, j'ai pris cet exemple ce week-end, une personne, on a prié pour elle, elle était totalement guérie. Et après, dans la semaine, son fils est tombé gravement malade. Et elle a dit, oh Seigneur, pas lui, mais vaut mieux que ce soit moi qui sois malade à sa place. Et elle est retombée malade. Et le fils était resté aussi malade. Et je la revois quelques week-ends après. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as été totalement guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, oh, j'ai tellement vu mon fils souffrir que j'ai dit, non Seigneur, je vais prendre sa maladie, libère-le. Et là, je lui dis, mais quelle erreur! Quelle erreur que tu as fait! Jésus a payé le prix pour que nous soyons guéris. C'est pas à toi de porter la maladie, tu ne peux pas. C'est Jésus qui peut porter ta maladie. C'est Jésus qui te guérit. C'est lui qui te libère. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc tu peux non seulement toi-même réclamer la guérison que tu as déjà obtenue, mais aussi réclamer la guérison pour ton fils. Parce qu'il a payé le prix pour que nous puissions recevoir par le moyen de la foi gratuitement le produit du paiement qu'il a fait pour nous. C'est un échange divin. Donc nous devons réaliser que ce que Dieu a fait pour nous à la croix, il veut le produire en nous. Il en est de même de la résurrection. La résurrection n'est pas uniquement quelque chose qu'il a fait pour nous. C'est quelque chose qu'il produit en nous. Et il y a des bénéfices extraordinaires dans la résurrection. Et c'est un fondement qu'on va prendre le temps, en quelques minutes ce matin, d'établir dans nos cœurs. Romains 8, verset 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Bien plus, j'aime ce mot, ces deux mots. Bien plus, cela signifie bien mieux que mort. Bien mieux que mort, il est ressuscité. 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Ici l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens toujours, dans cette lettre, cette épître de 1 Corinthiens, il commence, on a vu tout à l'heure, au chapitre 1, en disant « Nous prêchons Christ crucifié, sagesse et puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés. » Mais il termine sa lettre au verset 15 en disant « Mais si l'on prêche de Christ ressuscité, » il prêche Christ crucifié, mais aussi ressuscité. Et il dit ceci, si Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine. Alors votre foi est vaine. Et il s'adresse ici à l'église de Corinthe. Et nous devons aussi comprendre et prendre ça pour nous. Notre foi devient utile et efficace lorsque nous réalisons que Christ est ressuscité pour nous, qu'il est la résurrection et la vie. Imaginez, frères et sœurs, les apôtres. Ils ont tous vu Jésus crucifié. Ça, ils n'avaient pas de doute. Ouais, bien mort. Ils avaient tellement peur pour leur propre vie qu'ils se sont enfermés dans une pièce en disant, s'ils l'ont tué, ils peuvent nous tuer aussi. Donc les gars, allons pas faire de bruit. Ils avaient peur de la mort. Donc on va rester tranquille là, ok? On ne va pas se faire voir. Et puis il y a quelques disciples qui commencent à voir la révélation, à voir Jésus ressuscité, et qui vient leur dire, hey, « les gars, il est vivant! Il vit! Il est ressuscité comme il nous a dit !» Et là, les disciples disent, « Ah ouais, n'importe quoi !» On rigole, mais imagine que tu enterres quelqu'un demain, lundi et mercredi, il vient manger chez toi. C'est quand même bizarre. Nous, on rigole en disant, ouais, ils auraient pu croire. Hein. Mais imagine les disciples, ils le voient crucifié. Tout le monde le voit crucifié. Et maintenant, il est ressuscité. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Dans Marc 16, verset 14, il est dit ceci. Enfin, il a apparu aux onze, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru en quoi ? En sa résurrection. Pas en sa crucifixion, parce qu'ils croient, ils ont vu. Ils avaient du mal à croire en quoi ? Qu'il était ressuscité. Donc Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. C'est pour ça que nous prêchons aussi, Christ est ressuscité. Sinon notre foi est vaine, parce que la direction de la crucifixion pointe vers la résurrection. Et la crucifixion doit nous conduire à la résurrection. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à la résurrection de Jésus. Pas aux pasteurs. Pas voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les prophètes ou les apôtres. Ceux qui ont cru. Ça parle des miracles du peuple de Dieu qui croit. Il y a la puissance de la résurrection. Et c'est cette puissance-là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dedans. C'est les bénéfices de la résurrection. Colossiens 2,12 nous dit, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Colossiens 3,1 dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Éphésiens 2,5, « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Philippiens 3,10, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Et la puissance de sa résurrection. Et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. L'apôtre Paul dit ici, le mot connaître, c'est le mot grec ginesco, qui parle de connaître par expérience, qui parle d'expérimenter. Qui ? Christ. Si tu expérimentes Christ, qu'est-ce qui se passe ? Tu le connais dans la puissance de sa résurrection. Il n'est pas possible de dire, je connais Christ, mais je ne connais pas la puissance de la résurrection. L'apôtre Paul ne sépare pas les deux, parce que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et celui qui connaît Christ ressuscité, s'approprie, expérimente la puissance de la résurrection. Malgré les souffrances, il expérimente la puissance de la résurrection. Oui, il n'y a pas de résurrection sans crucifixion. Mais il y a un problème s'il y a uniquement une crucifixion sans résurrection. Si le peuple de Dieu ne s'arrête qu'à la croix, ils vont toujours dire, mais il porte la croix, mais il porte ma croix, mon enfant. Dur. Et ils ne vont pas recevoir la puissance du Saint-Esprit pour les aider à dire comme Paul, qui me séparera de l'amour de Dieu ? Ni l'angoisse, ni la détresse, ni le stress, ni l'oppression, ni les difficultés. Parce que la puissance de la résurrection agissait fortement en lui. Il connaissait Christ, c'est la puissance de sa résurrection. Et ce matin, je veux vous encourager, précieux peuple de Dieu, vous qui venez, qui avez soif de sa parole, ne venez pas juste pour avoir une bonne célébration. Venez pour faire une expérience avec le Christ, notre Seigneur. Même pas uniquement besoin de venir chez toi dans ta relation chaque jour. Tu es l'Église. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Tu es son temple. Jésus a dit ceci, il est mieux pour vous que je m'en aille. Je dois ressusciter et monter à la droite du Père. Parce que quand je vais être là-haut, je vais vous envoyer le Consolateur. Dans Jean 16, le Consolateur, il est comme moi et il sera avec vous. Si je m'en vais pas, il viendra pas. Mais s'il vient, il sera en vous. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la résurrection. Il nous donne un aperçu, un acompte, un avant-goût, un test, une expérience de ce que Dieu a pour nous dans les années à venir. La parole de Dieu dit dans Romains 8, 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Pas à vos corps spirituels, ça ne parle pas de nos corps dans l'éternité, ça parle de notre corps là, maintenant. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet esprit de résurrection va donner la vie à votre corps mortel, va vous faire expérimenter, goûter, vous donner un avant-goût de la puissance de la résurrection. Et nous devons être convaincus de cela. Et cela nous permet de rendre la croix lorsqu'on expérimente et on s'approprie les bénéfices de la crucifixion, de la résurrection. Alors on se rend compte, oh, qu'il nous aime et qu'il est pour nous. Et que la croix et la résurrection est toujours actuelle. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il veut le produire maintenant en nous et au travers de nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. À l'époque, lorsque les disciples avaient peur, il nous faut comprendre ceci. Les chrétiens ne venaient pas à Jésus à l'époque de l'église des Actes parce que Jésus répondait à leurs besoins. Lorsque tu devenais chrétien, tu étais une cible pour être un martyr. C'était pas la même mentalité. On venait pas à l'église pour avoir une bonne vie, une grande destinée sur terre. On n'est pas à l'église pour tous nos besoins soient répondus. Quand à l'époque ils acceptaient Christ, ils savaient que eux, leur famille, pouvaient être tués. Et quand les disciples avaient peur, ils étaient dans la crainte, dans la tristesse, Jésus est mort, ils ont peur de mourir. Et quand Jésus leur apparaît, et que Thomas est toujours dans l'incrédulité, même quand il voit Jésus devant lui, il dit, oh, si je ne touche pas sa main, son côté, je ne crois pas. Et Jésus dit, arrête d'être incrédule et crois que je suis ressuscité. Soudainement, qu'est-ce qui se passe en eux? Soudainement, celui qui est la résurrection et la vie devient une révélation en eux. La résurrection devient une révélation en eux. Ils réalisent que la mort n'est pas la fin. Ils réalisent qu'ils n'ont plus besoin d'avoir peur de la mort. Ils réalisent que la puissance de la résurrection va les conduire dans une espérance et dans une destinée pour l'éternité bien plus grande que celle qu'ils ont sur terre. Et du coup, ils ont peur. Eux qui avaient peur, en un instant, cette peur de la mort se transforme en une joie. En un instant, cette peur de la mort se transforme en une force. La résurrection produit en eux une force. Ils n'ont plus peur des déboires. Ils ne se focalisent plus sur leur détresse. Ils ne sont plus comme des œillères sur leurs difficultés de la vie d'aujourd'hui. Ils commencent à voir avec les lunettes 3D. Ils commencent à dire, ce n'est pas la fin. Je comprends peut-être pas tout. Je suis peut-être dans la détresse, mais maintenant je vois. Maintenant je comprends ce qu'il a voulu dire auparavant. Il est la résurrection et ce n'est pas la fin. Au départ, j'étais la proie de mes difficultés. J'avais peur de la mort. J'avais peur de l'inquiétude est venue. m'attraper. Mais aujourd'hui, je comprends que par sa crucifixion et que par sa résurrection, ce n'est pas la fin. Il y a plus, il y a mieux. Et il est la résurrection qui fait naître cette joie, qui fait naître cette paix, qui fait naître cette force. Et tout d'un coup, les disciples qui avaient peur se mettent à réaliser, oh, que ce n'est pas la fin sur terre. Il y a autre chose, il y a autre chose de bien mieux. Et ils réalisent vraiment que Dieu est pour eux. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire ce matin dans beaucoup de vies ici. Enlever les craintes, enlever les inquiétudes. Comprendre que la crucifixion, la résurrection est réelle. Mais ce n'est pas juste un concept théologique d'église. Ça produit la vie. Ça donne la vie à nos corps mortels. Ça enlève les craintes. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça parle que la croix et surtout la résurrection nous propulse dans un lieu d'intimité où Dieu est là. Et j'ai dit ce week-end, quand tu viens à l'église, extravagance ici, ne reste pas extravagance. Va dans le lieu très saint. Va dans le lieu secret. Le lieu secret, le lieu céleste ici parle où tu expérimentes la puissance de la résurrection. Tu peux le faire aussi chez toi, dans la prière. Soupire après ces moments. Cherche-le, cherche-le, cherche-le. Et soif de Jésus. Et expérimente la résurrection. Ce lieu céleste parle d'un lieu où lorsque tu es dans la détresse, où lorsque tu es dans l'angoisse, lorsque tu es réellement la proie des difficultés, tu vas dans ce lieu et tu commences à prier, tu commences à l'adorer. Et du coup, physiquement, tu peux être là, mais spirituellement, ton cœur et ton âme n'est plus là. Tu es en communion avec lui. Et dans ce lieu-là, la détresse est stoppée. Dans ce lieu-là, l'offense est arrêtée. Dans ce lieu-là, la haine est stoppée. Dans ce lieu-là, l'amertume aussi et ne peut pas rentrer. Aucune arme de l'ennemi ne peut t'accompagner dans ce lieu. Et peut-être qu'avant d'aller dans ce lieu, tu étais affaibli. Peut-être qu'avant d'aller dans ce lieu, oui, tu disais, mais qu'est-ce qui se passe? Comme le roi David qui soupirait après Dieu quand il était dans la détresse. Mais il avait compris une chose. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Il avait commencé à avoir un avant-goût, un test de ce lieu de sa présence. C'est pour ça que dans les psaumes, souvent on lit David, oh, qui est dans l'angoisse, dans la détresse, et il va vers Dieu, et après il dit, oh, Dieu, vraiment, tu es mon bouclier, tu es ma force, tu es ma joie, tu es ma paix. Je dis, mais qu'est-ce qu'il entend raconter? Un coup, il n'est pas bien du tout, et un coup, waouh, Dieu est plus fort, lui, avec. Mais David n'avait pas Jésus-Christ. Moïse n'avait pas Jésus-Christ. Daniel n'avait pas Jésus-Christ. Joseph n'avait pas Jésus-Christ. Il n'avait pas la crucifixion. Il n'avait pas la résurrection. Il n'avait pas aucun homme de Dieu dans l'Ancien Testament. Il n'a les avantages que nous avons par la mort et la résurrection de Jésus. Mais que faisons-nous, précieux peuple de Dieu? Mais nous avons un lieu dans les lieux célestes où nous avons accès. Le voile a été déchiré. Et en Jésus-Christ, nous pouvons aller dans ce lieu afin de recevoir sa force et l'esprit de résurrection qui agit en nous. Et faire la différence. Et faire en sorte que la tempête extérieure ne rentre pas à l'intérieur. Et lorsqu'elle cherche à rentrer, comme un bouclier, comme le bouclier de la foi, elle ne rentre pas parce qu'on sait qu'on a accès à sa présence par son Saint-Esprit. Et même si les circonstances n'ont pas changé, tu es fortifié. Vous savez, je ne suis pas très vieux. Mais dans la petite vie que j'ai quand même expérimenté, comme beaucoup ici, la perte d'être cher. Et plus j'expérimente la perte d'un être cher, plus la résurrection devient précieuse pour moi. Et j'espère que c'est pareil pour toi. Les disciples avaient peur de la mort. Mais quand ils ont découvert que Jésus est ressuscité, ils n'ont pas prié pour leurs besoins soient comblés. Ils n'ont pas prié pour avoir une grande maison. Ils n'ont pas prié pour un super travail. Gloire à Dieu pour tout ça. C'est bien. Mais c'est rien à compter de ce que Dieu nous a préparé. À côté de ce qu'il veut qu'on expérimente. L'apôtre Paul dit ceci, 2 Corinthiens 4, 14. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus. Et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle. Et nos légères difficultés du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. L'apôtre Paul dit, c'est pour ça qu'on ne perd pas courage. C'est pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il est ressuscité. Et quelle que soit l'angoisse, la détresse, les difficultés du moment présent, et lui, il est vraiment martyrisé lorsqu'il écrit ça, en prison, frappé. Et il dit nos légères afflictions, nos petits bobos. Mais il dit, nous ne perdons pas courage. Pourquoi ? Parce que les lunettes de la crucifixion, de la résurrection nous fait voir les difficultés autrement. Quand je regarde mes circonstances, je ne vois pas et je ne doute pas de sa bonté. Je ne doute pas que Dieu est pour moi. Mais ce que je vois, c'est son amour au travers de moi a été vraiment indéniable, irrévocable. Et qu'au travers de cet amour que je ne perds pas de vue en fixant mes regards sur lui, je me rends compte que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et que Dieu ne se sert du mal qu'il ne veut pas pour faire le bien qu'il veut et que ce mal qui se produit est une légère affliction qui va produire en moi un poids éternel de gloire. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Non, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors cette puissance qu'il a manifestée veut rendre la vie à nos corps mortels. C'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens 1, à partir du verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est le passage où on dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quel est le glorieux héritage qu'il réserve aux saints, mais quelle est aussi cette puissance qu'il met à notre disposition. Cette puissance qu'il désire voir agir avec efficacité en nous. Cette puissance qu'il nous a donnée en héritage lorsqu'il a ressuscité Christ d'entre les morts. Un enfant de Dieu est quelqu'un de dangereux. Si il marche dans la puissance de la résurrection. Dieu n'a pas prévu que nous puissions vivre la vie que nous vivons sans sa puissance et sa force. C'est pour ça qu'il nous a donné son Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit aux disciples, attendez, avant de partir, je vais vous envoyer celui que je vous ai promis. Je t'encourage ce matin à ne pas vivre ta vie avec tes propres efforts, avec la puissance de ta volonté personnelle uniquement, ou tes propres capacités humaines. Ça a ses limites. Mais t'encourager à taper dans une dimension qui t'est accessible par la résurrection de Jésus-Christ pour que cette puissance agisse en toi et au travers de toi avec efficacité. C'est possible. Vous savez, c'est comme si, parfois l'image que j'ai du peuple de Dieu, c'est comme si le peuple de Dieu est un peuple milliardaire. Mais leur frigidaire est vide. Milliardaires en euros, mais ils n'ont même pas de quoi manger. Parce qu'ils ne savent pas comment faire pour puiser ou retirer les bénéfices de toute la richesse qu'ils ont et qui leur est offert par la croix et la crucifixion de Jésus-Christ. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas. Devons nous réveiller et réaliser que, waouh, malgré les difficultés, la vie avec Christ est une vie puissante, riche en paix, riche en joie, riche en foi. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un moment, s'il vous plaît ?